Bonjour à tous. Alors, j'ai une petite question pour les enfants là. Est-ce que ça vous est jamais arrivé, parfois quand vous posez une question à vos parents, qui répondent un petit peu à côté? Vous demandez un truc et puis en fait ils vous donnent une réponse, vous avez l'impression que ça n'a rien à voir. Voilà, comme ça, je serai moins gêné. Je vais vous raconter une petite histoire, vous allez voir, vous allez voir si vous reconnaissez, si ça vous est déjà arrivé. C'est un petit garçon qui aime bien le vélo. Bon, il n'y a aucune ressemblance avec mes filles surtout, n'essayez pas d'en chercher. Et un jour, il vient voir son père en disant « Papa, j'ai besoin d'un nouveau vélo quand même, mon vélo là, il a besoin d'être changé. » Et là, son père lui répond bah, « Va dans le garage, va jeter un coup d'œil à ton vélo, et puis après reviens me voir pour dire ce qui ne va pas. » « Oh ben, bah, ça c'est facile, hein. Je peux te dire tout de suite, j'ai pas besoin d'y aller. Déjà, la chaîne, elle fait que sauter, il y a les poignées qui sont toutes abîmées, là, les freins, ils frottent tout le temps, et puis ça s'arrête pas bien. Non, mais va dans le garage, va voir ton vélo, et puis après, reviens me voir pour me dire ce qui va pas. » « Mais je viens de te le dire ce qui va pas, quand même, c'est pas... J'ai pas besoin d'aller le voir. Et puis en plus, même la selle, elle est toute abîmée, et puis il est trop petit pour moi, maintenant, de toute façon. » Va dans le garage, va voir ton vélo, et après reviens me voir. Là, le garçon, il finit par s'énerver. C'est quand même, c'est n'importe quoi ce qu'il lui répond son père, c'est pas ça la question. Et puis, il s'en va en colère. Et puis, au bout d'un petit moment, quand même, il s'est un petit peu calmé, alors il revient voir son père. « Mais papa, j'ai besoin d'un nouveau vélo, quand même. » Alors son père, il lui redit encore une fois, avec un clin d'œil, « Va voir dans le garage, va voir ton vélo, et après, reviens me voir pour voir me dire ce qui va pas. » Il en a marre, le garçon, puis il se dit, bon, bah, tant pis, il va dans le garage, il ouvre la porte du garage, mais là, à l'endroit où il s'attendait à trouver son vieux vélo tout cassé, mais qu'est-ce qu'il y a à la place? Un vélo tout neuf. Un vélo super, à sa taille, avec tous les accessoires qu'il avait besoin, tout ce qu'il fallait. Et en fait, bah, quand son père lui répondait d'aller voir dans le garage, c'était pas parce qu'il répondait complètement à côté de la question. C'est parce qu'il savait très bien que son fils, il avait besoin d'un nouveau vélo et qu'il avait déjà préparé ce nouveau vélo-là. Et que, même si vous allez me dire, il est relou son père quand même, hein, il aurait pas pu lui dire tout simplement, mais c'est bon, il y a déjà un nouveau vélo, il est dans le garage, il t'attend. Ben oui, il aurait pu. Mais parfois, c'est un petit peu comme ça aussi avec Dieu. Parfois, on lui pose une question, et puis on a l'impression que quand il nous répond, il est à côté de la plaque. C'est pas ce qu'on avait demandé. Et on a du mal à accepter sa réponse. Et ben on va voir l'histoire de quelqu'un aujourd'hui qui a vécu un petit peu quelque chose comme ça, c'est l'histoire de Naaman. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de Naaman? Oui. Bon, 2, 3, 4, 5, si, il y en a quelques-uns quand même, ça va. J'ai eu peur là parce que c'est un culte de famille, je veux bien que certains des enfants ne connaissent pas, mais qu'il y en a quand même plusieurs qui devraient connaître. Hein. Donc on va lire cette histoire, elle est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. On va commencer déjà juste le début, les trois premiers versets. Donc Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Donc déjà Naaman, il n'était pas israélite, hein, il était du peuple syrien, c'était des ennemis d'Israël. Donc Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Donc Naaman, c'est un grand général, c'est un des plus grands chefs de l'armée du peuple syrien. Il avait remporté plein de grandes victoires, il était... très considéré même du roi. Il avait une grande réputation. Tout le monde l'admirait. Et de l'extérieur, on pourrait dire qu'il avait tout ce que les gens pouvaient désirer et admirer. Il avait de la gloire, il avait de l'argent, il avait plein de serviteurs, sûrement une grande maison et tout ce qu'on pouvait vouloir. Mais il avait quand même un gros problème. Bah, tu peux avancer les images, hein, avec. Vous voyez, ce grand général-là, eh ben, en privé, il ne ressemblait pas tout à fait à ça. Mets-nous la diapo suivante. Il avait la lèpre. Est-ce que vous savez ce que c'est la lèpre? La lèpre, c'est une maladie qui attaque le corps, là, qui vous ronge même la peau. On le voit peut-être pas très bien, mais si vous regardez un peu, il a plein de plaies sur la peau. Là, il est abîmé de partout. Et cette maladie, on la connaît plus beaucoup aujourd'hui parce qu'on sait mieux la traiter. Mais à l'époque, on savait pas du tout comment traiter cette maladie-là. Et ceux qui attrapaient la lèpre, eh ben, il fallait les mettre à l'écart, fallait leur dire de s'en aller au bout d'un moment parce que ça devenait contagieux. Et puis après, ça pouvait contaminer d'autres personnes. Et c'est une maladie dont on pouvait pas guérir. On savait pas comment la traiter. D'ailleurs, dans le peuple d'Israël, la loi disait que dès que quelqu'un était reconnu lépreux, eh bien, il fallait qu'il soit à l'extérieur, il était considéré impur, et puis même il devait se manifester parfois. Dès qu'il approchait, qu'il y avait des gens qui pouvaient être autour de lui, il devait le dire « je suis impur, impur », pour que personne s'approche et qu'il ne risque pas de les contaminer. Et là, ce grand général là, qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de gloire, ben, face à la maladie, ça ne pouvait pas faire grand-chose pour lui. Même s'il avait beaucoup d'argent, ça ne pouvait pas acheter une guérison. Même s'il avait le roi qui l'appréciait, qu'il avait la faveur du roi, le roi ne pouvait rien faire pour lui non plus. Personne ne pouvait guérir sa lèpre. Et c'est vrai que parfois, nous aussi, quand on a beaucoup, beaucoup de choses, qu'on s'imagine les gens qui ont de l'argent, ou qui ont des relations, ou qui ont un bon travail, ou qui réussissent bien à l'école, toutes sortes de choses comme ça, on s'imagine qu'ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir besoin. Mais on ne sait pas parfois les problèmes qu'ils ont derrière. Et parfois, quand on s'appuie sur ces choses-là, eh ben, on se rend compte qu'on n'arrive pas toujours à régler tous nos problèmes. Et Naaman, il avait, je vous l'ai dit, il avait des serviteurs. Mais parmi ses serviteurs, il y en avait une servante. C'était une petite fille qui venait du pays d'Israël. Comment elle était arrivée là ? Ben, c'est simple, c'est quand les Syriens ont fait la guerre contre Israël, et ben, en revenant de la guerre, ils ont emporté des gens avec eux et ils en ont fait leurs esclaves. Cette petite fille, elle n'avait pas le droit de choisir ce qu'elle voulait faire, elle ne pouvait pas aller où elle voulait, elle était obligée d'obéir à Naaman et en particulier à sa femme. On a envie de dire sa situation, cette petite fille, elle est quand même pire que Naaman. Elle a perdu sa famille, quand elle a été emmenée comme ça, elle était emmenée dans un pays étranger où elle ne connaissait peut-être même pas la langue au début. Elle est obligée de se soumettre à ces gens-là et elle se trouve au service de cet homme qui était malade. À votre avis, quelqu'un qui est dans la situation de cette petite fille, qu'est-ce qu'elle penserait en apprenant que son maître, là, comme ça, est malade ? C'est ça, bien fait pour lui, après tout ce qu'il m'a fait subir. Vu comment il était méchant avec moi, comment il m'a séparé de ma famille, si lui il est malade, ben tant mieux. Pourtant, c'est pas comme ça que cette petite fille a réagi. C'est pas sur le personnage principal dont je voulais me préoccuper ce matin, mais c'est quand même important de s'arrêter sur l'attitude qu'elle a eue, cette petite fille. Parce que pour elle, ben un peu comme pour Naaman, il n'y avait plus vraiment d'espoir. Elle était au service là, de ce général, de sa femme, elle était dans ce pays, elle avait été emmenée de force, elle n'avait pas choisi tout ça, et il n'y avait quasiment aucune chance qu'elle puisse rentrer chez elle, retrouver sa famille un jour. Mais pourtant, lorsqu'elle a vu que son maître était malade, elle s'est souvenue qu'elle connaissait une solution pour lui. Et elle aurait pu choisir de la garder pour elle, de rien dire en se disant « ben non, je ne vais surtout pas aller l'aider avec tout ce qu'il m'a fait subir ». Mais au contraire, cette petite fille, elle avait l'amour de Dieu dans son cœur et elle s'est dit « même si cet homme-là, il a été méchant avec moi, il faut quand même que je fasse quelque chose pour lui ». Et elle n'a pas hésité, finalement, à parler à sa maîtresse pour lui dire « mais s'il allait à Samarie, là-bas, il y a un prophète. Et ce prophète, quand il prie pour des gens, eh bien, ils sont guéris. » Déjà, ça ne devait pas être facile de dire ça à sa maîtresse parce que, ben, comme j'ai dit, peut-être qu'elle aurait pu avoir de la rancune dans son cœur, elle aurait pu en vouloir à son maître et sa maîtresse, ce qui apparemment n'était pas le cas. Mais en plus de ça, c'était sûrement impressionnant. Imaginez, vous allez aller voir Naaman ou sa femme pour lui dire qu'il y a un prophète dans mon pays, il y a un prophète qui s'adresse à un Dieu Qu'eux, ils ne connaissaient pas. Puisqu'ils étaient Syriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Et pour lui dire, mais en plus, ce Dieu-là, c'est le plus grand Dieu, il va pouvoir te guérir. Parfois, ça, on n'ose pas trop en parler de ce qu'on connaît, parce qu'il faut déjà être quand même bien convaincu. Il fallait qu'elle soit sûre d'elle pour aller lui dire ça. Vu la maladie qu'il avait, que personne ne savait guérir, aller lui dire, mais si, il y a quelqu'un qui saura te guérir, faut être sûr de soi quand même pour le dire. Et je pense que c'était quand même, c'est un bon exemple pour nous, parce que parfois, nous, on n'ose pas trop aller dire aux gens autour de nous quand ils traversent des choses difficiles, parfois ils ont des moments très durs, et puis on n'ose pas leur dire, mais tu sais, Dieu, il pourrait t'aider. Ça peut être des copains à l'école, ça peut être des personnes de notre famille, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, comme Naaman, et puis qui, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas demander à Dieu de les aider. Et comment ils vont deviner qu'il faut demander à Dieu, si nous, on ne leur dit pas? Et là, cette petite fille, elle a osé le faire, et elle a bien fait. Parce que lorsque Naaman a entendu cette nouvelle, il a cru qu'il y avait un espoir. Et donc, il a été voir son maître, c'est-à-dire le roi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On le lit, les versets suivants. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. C'est-à-dire qu'en gros, il est parti avec beaucoup d'argent, là, beaucoup de richesses. Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Donc le roi de Syrie, quand Naaman est venu le voir en lui disant, mais la petite fille, elle m'a dit qu'il y avait un prophète là-bas que je pouvais être guéri en Israël, si je vais à Samarie, le roi il s'est réjoui parce que le roi aimait Naaman et il voulait trouver une solution pour lui. Mais le problème, c'est que Naaman et le roi de Syrie, ils n'ont pas tout à fait écouté ce qu'avait dit la petite fille. La petite fille, elle avait bien dit à Naaman d'aller à Samarie. Samarie, c'était la capitale du royaume d'Israël. Parce que dans l'histoire d'Israël, le pays s'était divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël qui restaient. D'un côté, la capitale, c'était Jérusalem. De l'autre, c'était Samarie. Et à Samarie, donc, il y avait le roi d'Israël qui était là. Et donc, ce qu'a fait Naaman, sur le conseil du roi de Syrie, c'est qu'il allait voir le roi d'Israël avec une lettre pour dire, mais au roi d'Israël, voilà, je t'envoie Naaman, tu vas le guérir de sa lèpre. En même temps, Naaman, quand même, c'était un grand général, un homme qui avait beaucoup de renommée. Il était envoyé par le roi de Syrie, donc c'était normal qu'il s'attende à être traité avec les honneurs, qu'on l'accueille dans un palais pour s'occuper de lui, non? On ne va pas l'envoyer au fin fond de la campagne ou... Non, il fallait qu'il soit reçu quand même. C'était le roi de Syrie lui-même qui l'envoyait. Et donc, il arrivait avec toute sa troupe de serviteurs, avec plein de richesses, avec plein de choses comme ça. Donc forcément, il allait directement au palais. Parce qu'il s'est dit, quelqu'un comme moi, c'est là-bas que ça va se passer quand même, que les gens puissent voir que j'arrive là et que je mérite bien d'être guéri. Mais quand il s'est présenté devant le roi d'Israël, le roi d'Israël, il n'a pas compris du tout ce qui se passait. Lui, il a vu Naaman qui arrivait là, fier de lui, en demandant à être guéri. Et il dit, mais tu crois vraiment que moi je vais pouvoir te guérir? Le roi d'Israël, il s'est même mis en colère. Il a dit, mais s'il m'envoie cet homme-là en me demandant de le guérir, moi je n'ai pas le pouvoir de faire ça, c'est parce qu'ils veulent me refaire la guerre encore, ces Syriens. Il s'est dit, c'est forcément, c'est parce que le roi de Syrie, là, il cherche une occasion de me demander quelque chose que je ne vais pas faire, et puis après, il pourra se plaindre et va venir m'envahir, peut-être. Naaman, au final, quand il avait reçu cette première parole de la part de cette petite fille, il n'a pas écouté ce qui lui avait été dit. Il a fait confiance à son orgueil, à sa fierté, et il s'est dit, un homme comme moi, c'est là-bas que je dois aller, et il s'est planté. Et c'est déjà une première leçon pour nous, parce que parfois, quand on fait confiance à notre orgueil, quand on croit qu'on sait mieux que les autres ce qui est bon pour nous, quand on croit qu'on sait mieux que les autres ce qu'il faut faire, eh bien on ne s'adresse pas à la bonne personne, on ne s'adresse pas à Dieu, et on se plante comme Naaman. Voilà. Et bizarrement, ce qu'on croyait qui devait marcher, ben ça ne marche pas. Naaman, lui, il comptait sur sa renommée, il comptait sur son argent là, pour arriver et que tout le monde soit à son service et puis qu'on puisse le guérir tout de suite. Mais ça n'a pas marché. Encore une fois, ce n'est pas son argent, ce n'est pas sa renommée qui pouvait le sauver. Une maladie comme ça, ce n'était pas à la portée de n'importe qui. Mais heureusement pour lui, cette petite fille, quand elle lui avait parlé, c'est parce que Dieu l'avait poussé à le faire et parce que Dieu voulait vraiment qu'il se passe quelque chose pour Naaman. Alors, Dieu n'a pas permis que Naaman il se trompe et puis qu'il rentre chez lui, il est malade. Dieu a quand même prévu une solution. Et c'est que le prophète Élisée était dans la même ville et il a entendu dire ce qui s'était passé au palais. Et donc, dans le verset suivant, on voit ce qui s'est passé ensuite. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, donc c'était lui le prophète dont parlait cette petite fille, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Donc là, quand il avait déchiré ses vêtements, c'était sa façon de montrer qu'il se mettait en colère et que ce qu'on lui demandait n'allait pas du tout. Et donc, Élisée envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Heureusement pour Naaman, il n'était pas venu à Samarie par hasard. C'est bien là que Dieu avait voulu l'envoyer au travers de ce qu'avait dit la petite fille. La petite fille, elle lui avait bien dit, « Va à Samarie. » Et lorsqu'il s'est adressé au roi d'Israël et que ça a échoué, ça n'a pas marché, heureusement, le message, la nouvelle est arrivée jusqu'aux oreilles du prophète Élisée. Et Élisée vient dire, mais c'est normal, c'est pas le roi qu'il fallait aller voir, c'est moi. Déjà, peut-être que le roi, il aurait pu réfléchir et se dire, mais si on m'envoie quelqu'un pour un truc comme ça, c'est peut-être vers le prophète qu'il fallait aller voir. Et vous savez, le roi à l'époque, c'était pas un des meilleurs rois d'Israël. Il est un peu meilleur que son père, parce que son père et sa mère, c'était Akab et Jézabel. Je sais pas si vous les connaissez. Ouais. C'était un des pires rois et des pires reines qu'il y a eu au pays d'Israël, parce qu'ils avaient entraîné le peuple pour faire plein de mauvaises choses, et en particulier pour prier d'autres dieux. Et Dieu n'avait pas du tout aimé ça. Et puis il y avait eu toute une histoire après avec le prophète précédent, qui s'appelait Élie. Et donc Élisée avait été formé par Élie. Et le roi d'Israël à cette époque, qui était Joram, c'était le fils donc d'Akab et de Jézabel, il avait arrêté certaines des choses que faisaient ses parents, mais c'était quand même un roi qui ne servait pas bien Dieu. Et donc quand on lui a parlé de guérir quelqu'un, il n'a pas été réfléchir qu'il y avait peut-être un prophète qui pouvait l'aider. Mais Élisée, lui, s'est manifesté, il a dit, s'il faut qu'il vienne me voir. Et s'il vient me voir, là, il verra qu'il y a un vrai prophète du vrai Dieu qui existe en Israël. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Naaman est... Enfin, lorsque le message est arrivé. Ben, Naaman a continué son chemin, donc du palais du roi, il est allé jusque chez Élisée. Et là, donc on lit la suite, Naaman vint avec ses chevaux et son char... Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Donc Naaman arrive chez le prophète, là, et là, il est à nouveau surpris, parce que Élisée, il n'est même pas sorti de la maison pour lui parler, il a juste envoyé son serviteur là, pour lui dire, voilà, tu vas te plonger dans le fleuve, tu vas te plonger 7 fois et puis ça sera bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec Naaman ? Ben Naaman, cette fois-ci, c'est lui qui se met en colère. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place, là, guérira le lépreux. » Et puis il continue, il se met en colère parce que même le Jourdain, là, ce fleuve-là, il ne lui plaît pas. Il dit, « Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, donc c'est les fleuves qui sont chez lui, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ?» Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Naaman, là, quand il a entendu ça, il s'est mis en colère. Il dit, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé, moi ce que je veux c'est être guéri. Et c'était peut-être pas forcément très clair dans le début de l'histoire, l'orgueil qu'avait Naaman. On avait un peu deviné quand on le voit arriver au palais comme ça, mais là, quand on le voit réagir, on se rend compte à quel point c'était un homme orgueilleux et arrogant, un homme qui était vraiment sûr de lui, qui se croyait au-dessus de tout le monde. Et la façon dont il vient d'être traité, là, ça ne lui plaît pas du tout. Lui, c'est le grand général, celui devant qui tout le monde doit se prosterner, à qui tout le monde doit obéir. Donc il s'attendait à ce que le prophète, là, il sorte, limite, qui vienne se présenter humblement devant lui, et puis qui prie pour lui, et que là, tout le monde voit d'un seul coup Naaman guéri, et puis que ça soit la gloire du général. Après tout, il le mérite bien, un homme aussi grand que lui. Lui, ce qu'il voulait, Naaman, c'est que le prophète et puis son Dieu, ils soient à son service. C'est lui qui demande, là, je veux être guéri, et puis le Dieu d'Israël, il n'a qu'à obéir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Lui, il voulait toute une mise en scène où il serait au centre, où tout le monde allait le regarder, et puis aller voir que même le Dieu d'Israël lui obéissait, finalement. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. On ne peut pas donner des ordres à Dieu. Et il a eu une réponse un petit peu comme la réponse de ce père avec son garçon. C'est une réponse qui était complètement à côté de la plaque. Il lui dit d'aller se laver dans le Jourdain. Mais qu'est-ce qu'il va aller faire dans le Jourdain ? Pour Naaman, là, il s'est senti humilié. Il a dit, mais on est en train de se moquer de moi, là. C'est une blague qu'on est en train de me faire. Parce que je suis syrien, ils veulent se moquer de moi plutôt que de me guérir comme n'importe qui d'autre. En plus, ce que lui demande Élisée, c'est difficile à faire pour lui. Parce que vous vous rappelez qu'il est lépreux. Je vous ai dit, ça laisse beaucoup de traces sur la peau, la lèpre. Et là, Élisée est en train de lui dire, tu vas aller te plonger dans le Jourdain. Se plonger dans le Jourdain, ça veut dire qu'il va falloir qu'il enlève toute sa cuirasse, son armure, qu'il enlève une partie de ses vêtements aussi. Tout le monde va le voir là, va voir toute sa peau qui est abîmée de partout, va voir à quel point il est vraiment rongé par la maladie. Ce qu'Élisée lui a demandé de faire, ça va être de s'humilier devant tous les gens qu'il a amenés avec lui. Parce que quand il est venu avec toute une troupe, il y a plein de gens importants qui sont venus avec lui pour montrer à quel point c'est un général qui méritait qu'on le respecte. Et là, tous ces gens-là qui sont avec lui, ces gens-là qui sont peut-être à son service et qui l'admiraient, ils vont le voir sans ses habits, avec toutes les traces qu'a fait la maladie. Naaman, là, c'était dur pour lui d'accepter ça. Et puis en plus, se plonger dans le Jourdain c'est un des fleuves d'Israël. Israël, pour lui, c'était un pays qu'il avait vaincu, c'était un pays qui lui était soumis, ça n'avait aucune valeur. Le Jourdain, c'était un fleuve du pays d'Israël, mais oui, mais comme c'est un pays qui valait rien à ses yeux, le fleuve, il ne valait pas mieux. Et lui, le grand général, finalement, on l'obligeait à se déshabiller, à se montrer comme ça devant tout le monde, avec toutes les marques de la maladie, pour se plonger dans le fleuve de ce pays qu'il avait vaincu. Non, ça, c'était une humiliation qui était trop grande pour lui. C'était trop grande à accepter. Mais heureusement, il y a Jean de La Fontaine qui a dit « On a toujours besoin d'un plus petit que soi. » Vous savez ? Eh bien, heureusement pour Naaman, il y avait les plus petits que lui à côté qui lui ont parlé. C'est ses serviteurs. Et ses serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, dans le verset suivant, on voit « Ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi, tu seras pur !» Et il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Le général, là, vous voyez, quand il est allé se plonger dans l'eau, il a fallu qu'il accepte ce qui lui avait été demandé, malgré ce que ça impliquait, malgré le fait que voilà, tout le monde allait voir, vous voyez, combien sa peau elle était abîmée. Et ses serviteurs lui disent, mais qu'est-ce que tu as à perdre de toute façon ? Tu n'as pas d'autre solution. Fais ce qu'il te dit, tu verras bien. Peut-être qu'il a raison, le prophète, et que si tu fais ça, ça va vraiment marcher. Peut-être que ce n'est pas juste pour se moquer de toi. Naaman, il n'avait pas aimé la réponse qu'il avait eue et il ne la comprenait pas. Mais pourtant, il n'avait pas d'autre solution. Alors au bout d'un moment, il a bien été obligé d'écouter. Il a bien été obligé de faire ce qu'on lui demandait, même si ça ne lui semblait pas du tout logique. Quand le petit garçon, il entendait son père lui dire « Mais va voir dans le garage », alors que lui, il demandait à ce qu'on lui achète un nouveau vélo, ce n'était pas la bonne réponse, ce n'était pas une réponse logique. Mais pourtant, quand il a écouté, qu'il a fait ce que son père lui disait, il s'est rendu compte que « Ah ben si, finalement, cette réponse-là, quand on l'écoute, ça donne les bons résultats, ça donnait les résultats qu'il attendait. » Et de la même manière, Naaman, tant qu'il résistait à ce que lui avait dit le prophète, ben, il ne pouvait pas être guéri. Tant qu'il ne voulait pas écouter ce que Dieu lui disait, il ne pouvait pas être guéri. Et il a fallu qu'il commence par accepter d'abord de se soumettre à Dieu, qu'il accepte de faire ce que Dieu lui disait, même si ça lui semblait dur, même si ça lui semblait pas du tout correspondre à ce qu'il attendait. Et au bout d'un moment, ben, il va accepter. Et là, quand il se plonge dans le Jourdain, une fois, mais il y a encore la maladie. Une deuxième fois, c'est toujours là. Et puis il continue comme ça, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et là, la 7e fois, quand il ressort de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il était complètement guéri. Plus la moindre trace de la maladie. Vous avez vu, il nous a dit, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Il avait une peau de bébé. Vous avez vu, la peau d'un bébé ou d'un petit enfant, en général, elle est toute lisse, elle n'est pas ridée comme quand on commence à prendre de l'âge, on n'a pas encore de cicatrices, on n'a pas encore toutes sortes de choses qui peuvent arriver quand on grandit et quand on vieillit. Et là, Naaman, il s'est retrouvé de nouveau avec un corps tout neuf, un corps complètement guéri. Alors qu'est-ce qu'il a fait Naaman là? Et bien, il nous est dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Et Élisée répondit « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Une fois que son corps a été guéri, ben Naaman, il a surtout montré que Dieu il avait transformé plus que son corps. Il avait transformé son cœur aussi. Quand on l'entend parler avec Élisée au retour, c'est plus le même homme que quand il s'adressait à lui avant d'être guéri. Avant d'être guéri, c'est un homme qui était orgueilleux, arrogant, qui voulait qu'on l'écoute, qu'on le respecte et qu'on se soumette. Quand il est revenu, là, c'est un homme qui était humble devant Élisée, qui était reconnaissant, qui voulait dire merci et puis faire plein de cadeaux pour remercier ce Dieu-là. Et vous voyez ce qu'il a dit à propos de Dieu, Naaman ? Il a dit « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » D'un seul coup, il a compris qu'il n'y avait qu'un seul vrai Dieu partout dans le monde. C'était le Dieu d'Israël. Lui, il venait du peuple syrien, et en Syrie, des dieux, ils en avaient plein. Et pourtant, aucun de ces faux dieux que priaient les Syriens n'avait rien pu faire pour lui. Ce n'est pas les dieux comme Dagon et d'autres là qui avaient pu le guérir. Non, il n'y en avait qu'un dieu qui avait réussi, c'était le dieu d'Israël. Et vous voyez qu'à la fin, il dit même, « Moi, je ne veux plus offrir d'holocauste ni de sacrifice à aucun autre dieu. » Les holocaustes et sacrifices, c'est quand quelqu'un allait tuer un animal et le mettre sur l'autel pour l'offrir à son Dieu, comme un cadeau, comme quelque chose qu'on faisait pour dire merci, ou parfois pour demander quelque chose à son Dieu. Et là, Naaman est en train de dire, moi je ne vais plus faire d'offrande comme ça à aucun autre Dieu, parce que ces autres dieux, ils sont faux, ils n'existent pas, ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Le seul à qui je veux faire des offrandes, le seul à qui je veux faire des cadeaux, c'est ce Dieu d'Israël qui m'a guéri. En fait, le plus dur pour Naaman, c'était d'accepter de se soumettre à ce que lui avait dit le prophète. C'était d'accepter de s'humilier. Et c'était sur la leçon principale que Dieu voulait lui apprendre, parce que plus que son corps, c'était son cœur qui était malade déjà avant. Et avant de guérir son corps, Dieu voulait surtout guérir son cœur. Dieu voulait lui faire comprendre que son orgueil, ça servait à rien. Que toute sa fierté, là, ça ne pourrait pas lui apporter de solution. Et que la seule façon de trouver du secours quand on traverse des moments difficiles, ben c'est en Dieu. Et on voit que Naaman a bien compris cette leçon-là. Quand il est revenu derrière, il n'était plus question là, d'exiger quoi que ce soit. Non, c'est plus lui qui demande au Dieu de faire ce qu'il veut, c'est il dit, maintenant c'est moi qui vais offrir des sacrifices, c'est moi qui vais faire des offrandes, c'est moi qui vais faire des cadeaux à ce Dieu. Naaman, là, il a compris que ce n'est pas lui qui commande, ce n'est pas lui qui ordonne à Dieu ce qu'il veut, mais que c'est Dieu qui lui a fait un cadeau. Et vous voyez, il a envie en plus, il est tellement reconnaissant qu'il a envie de lui faire énormément de cadeaux, d'en offrir à Élisée. Élisée lui dit non. Lorsque Dieu offre quelque chose, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer pour ça. Il n'y a pas besoin d'offrir tous tes cadeaux là. Mais ce qu'on voit, c'est que lorsque Naaman va rentrer chez lui en Syrie, c'est pas seulement un homme qui a été guéri dans son corps, mais c'est même un homme complètement nouveau. Il n'a plus du tout la même attitude envers le monde. Alors en conclusion, j'aimerais que vous reteniez deux exemples qu'on a vus dans cette histoire. Le premier principal, c'était celui de Naaman. C'est la façon dont Naaman a été convaincu. Il a fallu que Naaman il apprenne à placer sa confiance en Dieu et arrêter de se confier dans d'autres choses. Naaman, il se confiait dans son argent, il se confiait dans sa position là, en tant que général, qu'il avait beaucoup de pouvoir. Mais tout ça, ça ne pouvait rien faire pour lui face à sa maladie. Non, il fallait qu'il apprenne à faire confiance à Dieu. Et ça, c'est le plus important. Même si parfois, quand on demande quelque chose à Dieu, il répond à côté de la plaque. Même si parfois, quand on demande quelque chose à Dieu, la réponse qu'il nous donne, ça ne nous semble pas logique. Même si parfois, la réponse qu'il nous donne, on a envie de dire, mais ce n'est pas ça que j'ai demandé. Lorsque Dieu nous répond quelque chose, il y a une raison derrière. Et il faut qu'on arrive à écouter ce qu'il nous a dit, même si on ne comprend pas pourquoi. Nous, on aimerait bien que Dieu nous explique, mais pourquoi tu me dis de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il faut que je me plonge dans le Jourdain là? Ça va faire quoi? Elle a quoi de différent, cette eau-là? Il y a une source particulière en haut? C'est une eau magique? Normalement, il aurait voulu avoir les explications avant de le faire. Et nous, parfois, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est un peu comme ça qu'on fait. Parce que Dieu nous demande de faire quelque chose, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ça? Pourquoi est-ce que je dois obéir? Pourquoi est-ce que je dois écouter? C'est pas du tout ce que j'ai demandé. Mais Dieu nous dit non. Écoute simplement et tu verras après. Après, tu comprendras peut-être. Naaman, il a fallu qu'il écoute le prophète, même s'il ne comprenait pas pourquoi. Et c'est qu'après qu'il a compris que ben, Dieu avait eu besoin de le faire passer par là pour lui apprendre l'humilité. Le deuxième exemple, ben, c'est celui qu'on a vu au tout début, c'est celui de cette petite servante. Elle connaissait déjà Dieu. Elle servait déjà Dieu. Et on voit que son attitude, ce n'était pas du tout la même que celle de son maître. Elle, lorsqu'elle s'adressait aux autres, c'était avec humilité. Ah bien sûr, elle n'avait pas le choix, elle était esclave. Mais elle aurait pu être aigrie, être en colère, elle aurait pu être tellement triste de sa situation qu'elle en aurait voulu à tout le monde. Mais ce n'est pas ça qu'elle a fait. Elle savait que malgré la situation qu'elle traversait, même si elle était dans une situation qui était sans issue pour elle, elle pouvait continuer à faire confiance à Dieu. Elle connaissait déjà la leçon que Dieu voulait apprendre à Naaman. Et quand on a compris cette leçon, qu'on l'a appris et qu'on la vit, et bien ce qu'il faut apprendre à faire aussi, c'est à le partager autour de nous. Elle l'a partagé avec sa maîtresse, avec son maître, même si c'était peut-être dur pour elle de le faire. Mais heureusement qu'elle l'a fait, parce que grâce à elle, son maître, il a pu être guéri. C'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait que Naaman apprenne cette leçon aussi et qu'il puisse être guéri dans son corps et dans son cœur. Et grâce à cette petite servante qu'il a fini par écouter, Dieu a pu faire ça dans sa vie. Alors on va prier ensemble pour terminer. Et je vous propose qu'on prie pour que Dieu puisse nous aider à lui faire confiance comme Naaman l'a fait, mais pas pas en résistant comme Naaman l'a fait, qu'au contraire on puisse faire confiance tout de suite, et puis qu'ensuite on puisse être comme cette petite servante pour partager ce qu'on aura vécu avec les autres. D'accord ? Seigneur, merci pour cette histoire que tu as mis dans la Bible. Merci parce que tu nous as donné des exemples à suivre dans cette histoire. Aide-nous à suivre l'exemple de Naaman, non pas comme au début, lorsqu'il était orgueilleux, lorsqu'il refusait d'écouter les autres et qu'il voulait faire que ce qui le glorifiait lui, mais aide-nous à suivre son exemple lorsqu'à la fin il a compris qu'il devait t'écouter, lorsqu'il a compris qu'il devait te faire confiance et lorsqu'il a compris qu'il devait t'obéir, même s'il ne comprenait pas encore pourquoi. Aide-nous, Seigneur, même lorsqu'on traverse des moments difficiles, lorsque on a des épreuves, à te faire confiance comme Naaman a accepté de le faire à la fin, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, je te prie aussi pour que lorsqu'on voit les autres autour de nous traverser des épreuves, eh bien on puisse le partager avec eux. Tu puisses nous aider, Seigneur, à avoir suffisamment confiance en toi pour pouvoir dire aux autres ce que tu es capable de faire, Seigneur mon Dieu. Et que tu puisses nous utiliser, comme tu as utilisé cette petite servante, pour te glorifier dans la vie de ceux qui nous entourent, nos amis, nos familles, tous ceux qui sont autour de nous et qui ont besoin de te rencontrer, Seigneur. Merci Seigneur. Amen.